BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, vous êtes comme moi, vous regrettez qu'on ne puisse pas parler ce week-end des élections, mais comme c'est le week-end avant les élections, ben on n'a pas le droit de parler des élections, mais pourtant, j'ai trois bonnes nouvelles pour vous, c'est votre argent, c'est votre week-end, et ça va être quand même une émission exceptionnelle, parce qu'on va se concentrer, justement, on va prendre un peu de recul par rapport à la situation en France, et on va se concentrer sur les sujets de la semaine qui ont un impact sur l'économie, la bourse, le placement et l'argent, et il n'y a évidemment pas que les élections, parce qu'au sommaire aujourd'hui, je pensais que c'était très important de refaire un point, puisqu'on parle beaucoup de taux d'intérêt, on a tellement parlé d'inflation, savoir où on en est, il y a des gens qui nous disent depuis des années il n'y a pas d'inflation, ben, quand on explique ça à des gens qui vont tous les jours remplir leur caddie dans des grandes surfaces, ils ne sont pas tout à fait d'accord. La question macro, c'est de se poser la question, alors qu'on a eu ce grand mess européen en ce moment, les nominations aux grandes instances, les grandes manœuvres, ben, quelle est la situation économique de l'Europe? On entend beaucoup de choses sur l'Europe, et beaucoup de choses plutôt négatives. Le fossé avec les États-Unis qui s'accroît, le retard dans la tech, le soutien à l'Ukraine, enfin, pas mal de soutien à l'Ukraine qui ne fait pas l'unanimité. Enfin, il y a pas mal de dissensions. Et on a cette image un peu d'une Europe qui est en train de ralentir déjà économiquement et qui souffre. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est de l'Europe bashing? Le chiffre de la semaine qui m'a frappé, c'est 365 comme office. 365. Là, je suis assez content parce que je sais que Jean-Marc Daniel ne sera pas d'accord avec moi, mais après s'être attaqué aux constructeurs automobiles chinois, enfin, l'Europe s'attaque aux grands de la tech américaine. En deuxième partie de l'émission, on va se poser quand même la question de... On a eu un petit flottement sur Nvidia. Alors, vous me disiez 13% ou 15% de baisse quand on a fait la hausse qu'on a eue depuis un an ou deux ans. C'est pas grand-chose. Mais est-ce qu'il y a une bulle de l'intelligence artificielle? Il y a beaucoup d'analystes aux États-Unis qui disent qu'en fait, la progression des valeurs américaines, ce n'est que l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est justifié ou pas? Est-ce que la bourse américaine a des limites ou est-ce que sky is the limit? Et puis bien évidemment, dans ce contexte actuel, agité à cause de ce dont on ne peut pas parler, quel placement doit-on privilégier cette semaine? On fera bien sûr le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant... Pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Emmanuel Le Chip dit que si j'avais suivi ses cours d'économie, je ne serais pas aussi nul. Anne-Sophie Alsif, vous êtes chef économiste chez BDO France et professeur d'économie à la Sorbonne. Et vous êtes assez d'accord, en fait, c'est ce que vous m'avez dit hors studio avec
oui,
Emmanuel Le Chip.
Oui, mais on vous attend et vous venez jamais, c'est ça le sujet.
Non, mais vous êtes d'accord avec le fait que si je suis au cours, je serais moins nul?
Je pense.
Sympa quand même, au moins c'est direct.
C'est direct.
Il rêve toujours du retour du roi en France pour régler les crises politiques. Mais oui, Louis, mais
en
oui,
ce
mais
moment,
je suis. Mais en ce moment,
oui,
En ce moment, j'avoue que c'est tentant. Je pense qu'on peut parler du roi sans que ça rentre dans le temps de parole des élections.
Très bien.
Louis de Montalembert, vous êtes donc le régent de Pléiade AM.
En quelque sorte.
Ne vous fiez pas au ton de sa voix, j'en ai été victime. Elle s'est décochée des flèches dévastatrices. Marisol Michel, vous êtes directrice de la gestion sous mandat chez Swiss Bank gestion privée. C'est quoi la gestion sous mandat? Swiss Life, pardon. C'est quoi la gestion privée? La gestion sous mandat, pardon.
La gestion sous mandat, c'est quand vous avez envie de confier votre portefeuille à un professionnel qui va gérer pour vous.
Donc, d'accord, c'est ce qu'on appelle la gestion sous mandat.
Voilà.
Par opposition avec la gestion collective, c'est-à-dire les gens qui gèrent des fonds.
Non, par opposition à la gestion autonome où vous d'accord. gérez vous-même votre portefeuille.
Et il y a la gestion collective aussi.
Oui, c'est-à-dire mais dans le la fait gestion sous mandat, vous pouvez intégrer des fonds de gestion collective.
Même si sur la gestion, je ne comprends rien. C'est... Aïe. Sa statue. Elle trône à l'entrée de BFM. C'est une référence. C'est un monument. Jean-Marc Daniel. Non, ça y est, parce que...
Parce que
vous m'avez attaqué sur mes déclarations de 2012, sur lesquelles on reviendra, mais on n'a pas le droit de revenir. Allez, on va parler...
De façon insidieuse.
Pas tellement insidieuse. Allez, on va parler d'inflation. Ouais, est-ce qu'on doit être heureux? Est-ce que l'inflation est vaincue en Europe? Ça a l'air d'être le cas aux États-Unis. Alors avant de passer la parole à Jean-Marc Daniel, qui va nous expliquer qu'il n'y a pas d'inflation, mais à qui je propose d'aller faire un tour avec moi dans un grand magasin, une grande surface en périphérie de Paris, je vais me tourner vers quelqu'un de beaucoup plus modéré, qui va nous expliquer tout ça. Est-ce qu'on peut dire que l'inflation est derrière nous, en tout cas en Europe et peut-être aux États-Unis?
Alors en Europe, oui, hein, quand on regarde, donc encore une fois, hein, les prix continuent d'augmenter, mais moins vite. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que les salaires continuent de réaugmenter plus vite que l'inflation. D'accord. Donc concernant le pouvoir d'achat, on avait au début de la crise énergétique une augmentation des salaires plus dans le secteur manufacturier. Et aujourd'hui, dans le ralentissement des prix, on voit que c'est le manufacturier qui ralentit et par contre les services qui se maintiennent. Donc ce rattrapage de salaire après avoir été dans le manufacturier, il est dans les services.
Mais ça c'est pas bon.
Donc alors globalement on a l'inflation qui ralentit. Pourquoi? Parce qu'en Europe c'est une inflation importée, donc prix de l'énergie qui ont énormément baissé, qui ralentissent énormément, et prix de l'alimentaire hein, qui ralentit énormément. Comme c'était plus de 65% de la contribution à l'inflation, d'accord, c'est pour ça qu'on a un très fort ralentissement. Dans ce qui résiste, on l'a dit, hein, c'est les prix plus dans les services parce qu'il y a un rattrapage des salaires.
Okay.
Mais ça reste à un niveau qui est vraiment bas et on revient à la situation de 2019 d'avant crise. Alors c'est surtout l'année prochaine hein, qu'on va revenir au fameux 2% normalement qu'on aura.
On va revenir en 2025.
L'année prochaine, okay, en 2025, donc là qu'on aura.
Là on est en Europe hein, toujours.
Toujours en zone euro, toujours okay, en zone euro. Donc c'est vraiment l'année prochaine qu'on pourra dire l'inflation est derrière nous. Alors juste un bémol, hein, c'est ce qu'a dit vraiment Christine Lagarde lors de la dernière réunion donc de la Banque centrale. Attention, on est prudent, c'est-à-dire qu'on va commencer.
Christine Lagarde.
Il faut citer non, la garde.
Comme vous voulez, chacun hein, a ses sources.
Hein. Chacun a ses sources, voilà, c'est quand même une source importante. Et donc, ce qu'elle expliquait, c'est que, bien sûr, il y a ce ralentissement, mais il faut faire attention parce que voilà, des chocs exogènes pourraient faire, comme c'est de l'inflation apportée, que ça revienne, notamment sur l'alimentaire. Donc, comme il y avait eu dans la prévision l'idée que l'alimentaire allait baisser plus rapidement que l'énergie, que ça n'a pas été le cas, et donc on a maintenu des hauts taux d'inflation alors qu'on devait avoir des baisses plus rapides qu'anticipées, c'est pour ça qu'on va avoir des baisses de taux, mais qui vont être très prudente, hein, on a déjà 25 BP et peut-être qu'on aura une autre baisse, mais en tout cas ça restera prudent. Et aux États-Unis, oui, là encore, hein, on a aussi une inflation qui ralentit fortement, donc eux aussi l'année prochaine l'inflation devrait être derrière eux. Par contre, c'était pas une inflation du tout de la même nature.
Oui.
Donc parce qu'on a un ralentissement de la politique budgétaire, etc. Donc là, on a vraiment la hausse des taux qui a été efficace. Par contre, on voit qu'elle ralentit moins fortement qu'en Europe parce que les prix de l'immobilier restent quand même assez élevés et maintiennent cette inflation. Et donc c'est vrai que c'est ces prix-là qui expliquent qu'ils n'en ont pas tout à fait fini avec l'inflation.
Vous avez pas de crainte que la hausse d'inflation, parce que ce que vous décrivez, tant mieux, hein, la hausse des salaires soit supérieur à l'inflation, et que ça crée du pouvoir d'achat, mais vous n'avez pas de crainte que ça crée, non pas une spirale puisqu'il n'y a pas d'indexation, mais que ça crée une inflation par les salaires?
Non, parce que ce n'est pas du tout la même inflation qu'aux États-Unis. On a vraiment eu cette tendance. Là, en Europe, on est beaucoup plus dans un phénomène de rattrapage. Et comme vous avez eu beaucoup de subventions, hein, on va dire artificielles, qui avaient boosté le pouvoir d'achat, bah là, on est beaucoup plus dans un phénomène de normalisation. Les subventions s'arrêtent et les salaires continuent d'augmenter plus que l'inflation. Par contre, le point noir, hein, c'est vraiment la productivité, les gains de productivité par rapport aux États-Unis, de la zone euro par rapport aux États-Unis. Parce qu'en effet, même si on continue de créer des emplois marchands, ce sont des emplois qui sont dans les services et qui sont peu productifs. Donc on en crée beaucoup en volume, mais ce sont des emplois qui créent moins de gains de productivité par rapport aux États-Unis.
Jean-Marc Daniel.
Je croyais que c'était une émission d'actualité.
Ouais. Jean-Marc, non, on n'a pas le droit de parler de.
Mais, oui, mais vous parlez d'inflation. L'inflation, ce n'est pas l'actualité.
Ah si, c'est l'actualité
non,
totale.
Y a pas d'inflation.
Non, alors Jean-Marc Daniel.
Il n'y a pas d'inflation.
Ah, écoutez-moi bien. Voilà, je suis un ménager, pour pas dire une ménagère, de plus de 60 ans, avec mon caddie qui va dans les grandes surfaces.
Un peu cliché, quoi.
D'accord.
Oui.
Non, j'ai dit un ménager, c'est bon. C'est bien, quand même. Vous pouvez remarquer.
C'est bien.
D'accord. Qui va dans une grande surface en banlieue parisienne. D'accord. Comment vous pouvez m'expliquer à moi? Expliquez-moi, moi, qu'il n'y a pas d'inflation.
Ah, mais...
Et ne me donnez pas une définition académique qui date de 1293, on s'en fout de ça.
Oui,
la réalité.
C'est toujours d'actualité. Ce qui s'est dit en 1293 reste pertinent. Et donc, on n'a pas vaincu l'inflation parce qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il n'y a pas eu de victoire sur un phénomène qui n'a pas existé. Si vous faites vos courses...
Oui.
En tant que ménager,
oui,
vous apercevrez qu'il y a maintenant des prix qui commencent à baisser.
D'accord. Mais donc, ils ont monté.
Si ah, ils ont monté à un moment donné.
Donc, il y a eu de l'inflation.
Non, il y a eu certains prix qui ont monté, d'autres qui ont été stables, et puis maintenant, vous avez des prix qui commencent à baisser. Par exemple, dans cette émission, la première fois que je suis intervenu, c'était pour parler de chocolatine.
Oui, bien sûr. Bon,
parce que le prix du cacao augmente.
On a fait une spéciale chocolatine.
Une spéciale chocolatine à cause de l'augmentation du prix du cacao.
Évidemment.
Il devait se répercuter sur le prix du chocolat, et on se demandait comment on allait passer Pâques. Le prix du cacao est en train de s'effondrer sur le marché, et vous avez un certain nombre d'endroits où, désormais, la chocolatine a commencé à baisser. On nous parle en ce moment du prix du jus d'orange. Le prix du jus d'orange, c'était 1 dollar la livre de concentré. On est à 4,50 $. Donc on nous dit, on va manquer de jus d'orange, le prix du jus d'orange va s'effondrer. Mais les prix ont déjà commencé à baisser.
J'ai compris. Mais dans la phase de hausse, vous comprenez qu'on ne comprend pas ce que vous dites. C'est-à-dire que dans la phase de hausse, quand les prix augmentent, vous dites, ils sont en train... On a compris, maintenant il y a une désinflation, il n'y a pas d'inflation. Mais dans la phase de hausse, il y a eu de l'inflation.
Non, il n'y a pas eu d'inflation, parce qu'encore une fois, en 1293, année de référence dans votre pensée, on a bien défini l'inflation comme étant un phénomène général et durable. Et donc, comme l'avait dit Madame Lagarde... Madame Lagarde, de triste mémoire. C'est un mécanisme qui sera temporaire. Donc le mot temporaire.
Sauf qu'elle a changé d'avis quand ça est devenu temporaire, elle a changé d'avis.
Oui, mais le mot temporaire heurte directement le mot durable. À partir du moment où c'est temporaire, ce n'est pas durable. Si ce n'est pas durable, ce n'est pas de l'inflation. Ça a deux conséquences. La première, c'est que je pense que l'outil qui a été utilisé, qui était de faire monter les taux d'intérêt, ne répondait pas immédiatement au problème. Il répondait qu'à un autre problème, qui était le fait que on peut pas vivre durablement dans une économie avec des taux d'intérêt négatifs.
C'était ça l'aberration.
Le deuxième élément, c'est que dans les actualités de la semaine, il y a quand même la faillite du Kenya qui a pris un tour dramatique puisqu'il y a eu des émeutes à la suite des hausses d'impôts décidées pour essayer de colmater la brèche budgétaire du Kenya. Or, pourquoi est-ce que le Kenya est en faillite? Parce que le taux d'intérêt sur sa dette a considérablement augmenté et il est dans l'incapacité effectivement de faire face. Or, d'après la Banque mondiale, il y a entre 50 et 60 pays qui sont dans cette situation en ce moment.
Et donc,
cette hausse de taux d'intérêt pour répondre à un problème qui n'existe pas est en train de créer un problème qui, lui, va devenir particulièrement douloureux à gérer.
Vous comprenez ce qu'il dit ?
On comprend sur l'aspect, c'est durable ou pas. La grande différence, c'est que vous êtes d'accord qu'il y a une augmentation des prix de l'énergie. Bon, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Et donc, l'idée, c'est de dire, c'est ponctuel. Donc, ensuite, ça va partir. Donc, on n'aura plus d'inflation. Quand on regarde les sous-jacents et même les acquis de croissance, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, concernant l'énergie, certes, il y a un ralentissement qui est dû au baril du pétrole, mais que le coût de l'énergie dans la contribution à l'inflation reste élevé et va le continuer à moyen et long terme, notamment à cause des prix de l'électricité. Donc, là, vous êtes vraiment dans un phénomène durable. Donc, c'est pour ça que je suis un peu en porte-à-faux par rapport à ce que vous avez dit, sur cet aspect des prix, vous pourrez nous dire ce que vous en pensez, vous êtes
quand même
d'accord que vous êtes sur une contribution plutôt positive qui va durer cette fois-ci dans le temps.
Alors, je ne suis pas sûr.
Alors, c'est
un vrai sujet, c'est l'avenir du prix de l'énergie.
Vous la prenez au sérieux quand elle parle, elle. Moi vous rigolez, mais elle, vous lui répondez, d'accord.
Oui, bien sûr.
Ouais, bien sûr.
Et donc, bien sûr, vous n'avez pas suivi ses cours, donc tant que vous n'aurez pas suivi ses cours, je serai obligé de revenir à cette position. Donc, effectivement, sur le prix de l'énergie, il y a tout un débat. Il y a quand même deux choses que je mets en avant. C'est qu'en ce moment, il y a des moments où l'électricité est à un prix négatif.
Espagne, ça a été deux mois consécutifs.
Oui.
Vous avez vu que je suis ou pas?
Oui. Le prix de l'énergie, donc, n'est plus dans les mêmes circonstances. Notamment en France, il y a eu une période un peu étrange où il y avait un certain nombre de réacteurs nucléaires qui étaient arrêtés. Donc ça, c'était très, géographiquement, très localisé. Mais d'une façon générale, on est plutôt dans une phase où, de nouveau, le prix de l'énergie sous forme d'électricité est plutôt à court terme orienté à la baisse. Quant au prix du pétrole...
À la baisse, à court terme.
À court terme,
c'est pas pareil.
Alors après, ça sera
on rebondit sur l'aspect durable de l'inflation. Donc durable à moyen long terme, c'est pour ça que c'est ce que vous expliquez, que sur ce prix d'électricité, à moyen long terme, il y aura des hausses.
Donc,
une fois qu'une hausse de prix a lieu, pour qu'il y ait de l'inflation, il faut qu'elle soit auto-entretenue.
Bien sûr, on a bien compris ça.
Une fois que le prix de l'énergie aura augmenté, je pense qu'il va se stabiliser en poids.
Voir qu'il va baisser.
Et le deuxième élément sur le prix de l'énergie, là aussi, quand vous regardez les débats autour de ce que je venais d'évoquer, c'est-à-dire la faillite d'un certain nombre de pays africains, un certain nombre de pays comme l'Angola et le Nigeria, qui sont des producteurs de pétrole, disent qu'il y a trop de pétrole à la surface de la planète. Si on brûle tout le pétrole qui est désormais connu et enregistré dans les statistiques, on va faire exploser le climat. Donc il va falloir faire une sorte de quota de pays qui auront le droit de continuer à produire du pétrole. Et ils disent ceux qui devraient continuer à pouvoir produire du de pétrole, ce sont les moins favorisés, c'est-à-dire les pays africains. Et l'Arabie leur a répondu, pas du tout, nous on a des plans de développement et on veut absolument...
Chacun pour sa gueule.
Donc ça va faire une pression concurrentielle et je pense que cette pression concurrentielle sur le prix du pétrole va faire...
Mais est-ce que globalement, sur les prix de l'énergie,
c'est une très bonne nouvelle.
Jusqu'à présent.
Allez, on va passer quand même, parce que c'est un sujet sur lequel je voulais rebondir. C'est la situation économique de l'Europe. Évidemment, il y a eu les élections européennes. Évidemment, on en a beaucoup parlé. On en parle d'une partie de l'Europe. Louis de Montalembert, vous investissez principalement aux États-Unis. Vous investissez aussi sur des valeurs européennes. Est-ce que vous vous dites, la zone euro, pour moi, investisseur, compte tenu des perspectives de croissance, je ne regarde pas?
Alors... Moi, mon investissement est dicté par mathématiques et c'est pas géographique, simplement. Où est-ce que je trouve les entreprises qui correspondent à la technologie que je recherche?
Il y en a peu ou pas en Europe?
Il y en a, hélas, pas encore beaucoup en Europe. Alors, on attend des cotations en Europe et je serais tout à fait friand d'investir dans des entreprises européennes. On a un peu un problème à l'heure actuelle sur les marchés financiers, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, que beaucoup des stars de la tech non cotées ont été financées à des prix très élevés en 2020-2021 et que par conséquent
les investisseurs une baisse de valorisation.
Voilà, ne veulent pas reconnaître leur perte de valorisation. Et moi, j'ai des candidats tout près européens dans lesquels je serais prêt à investir, mais évidemment ce sont des entreprises qui sont mondiales. C'est-à-dire que je ne m'intéresse pas effectivement à la consommation européenne ou à des entreprises qui sont purement domestiques. Je m'intéresse à un champ qui est absolument global, aujourd'hui dominé par des entreprises cotées aux États-Unis, parce qu'on trouve des Israéliens, des Canadiens, parfois des Européens. Et de la même manière, je m'intéresserai à des entreprises même cotées en Europe, pour autant qu'elles aient un marché mondial.
Dans votre gestion sous mandat, quand vous gérez des comptes, aujourd'hui, l'Europe, vous dites non, pas pour l'instant?
Si, on est traditionnellement investi sur l'Europe. Il y a très beaux fleurons industriels en Europe qui vendent dans le monde entier. Hein. Grosso modo, pour vous donner une statistique, le CAC 40 ne dépend qu'à 15% du chiffre d'affaires en France. Ouais. Donc 15% du chiffre d'affaires des fleurons du CAC 40 est fait en France, qui est quand même très peu. Donc ils vont chercher la croissance partout dans le monde et bien sûr, on est investi sur l'Europe. Néanmoins, en ce moment, avec les risques politiques qu'on a, on diversifie nos placements et on va plus vers l'international pour cette raison-là.
Docteur Alsif, comment va l'Europe ?
Alors, en termes de croissance, mieux, puisque l'année prochaine, on devrait revenir à 1,5% de croissance, donc une croissance plus positive. L'Allemagne devrait sortir de récession dès cette année, donc en termes de croissance, mieux. Le problème, c'est vraiment, encore une fois, les gains de productivité et la croissance de moyen long terme. Qu'est-ce qu'on voit, notamment par rapport aux États-Unis, vous avez parlé du décrochage. Cette année, en Europe, en zone euro, y compris le Royaume-Uni, on est en négatif concernant l'investissement, notamment l'investissement des entreprises. Alors qu'aux États-Unis, on est à plus 3,5. Donc ça a toujours été le cas.
Croissance, elle vient de quoi, alors?
Alors, donc justement, elle vient donc de l'investissement des entreprises ou aux États-Unis, comme vous avez une diversification pour les entreprises d'avoir accès à des capitaux, ce qui n'est pas le cas en Europe, on est beaucoup plus dépendant du secteur bancaire, et bien ça leur a permis d'avoir un souffle et d'avoir vraiment un souffle sur l'investissement. L'autre élément, c'est les programmes comme l'IRA qui déjà portent leurs effets au bout de 2,5 années, hein, donc c'est vraiment très beu. Je vois que l'Eurofi a fait tout un document là-dessus, hein, qui était vraiment important, qui montre que les investissements dans cette transition écologique fait des États-Unis le premier pays au monde à avoir des projets dans tout ce qui est climat et transition verte, devant la Corée du Sud et devant la Chine. Nous, on est en quatrième position concernant l'Europe. Et on voit déjà l'impact sur les gains de productivité manufacturière, notamment Allemagne, États-Unis, où l'Allemagne est en descente et où les États-Unis sont vraiment en courbe haute, seulement après 2,5 années. La grande différence, c'est qu'aussi aux États-Unis, c'est pareil qu'en Europe, pays désindustrialisé, et c'est entièrement financé par de la dette. 7% de déficit aux États-Unis, c'est bien plus que nous qui sommes à 5,5%. La grande différence, c'est que les États-Unis s'endettent massivement pour investir dans de la valeur ajoutée et de l'investissement. Nous, on s'endette massivement pour investir dans la consommation.
Vous voulez être chauffé là, vous l'avez chauffé là. Jean-Marc, avant de répondre, parce que je sais que vous voulez répondre, comment va l'Europe, docteur?
Mais elle va beaucoup mieux que ce que vous dites. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a un élément qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'Europe, c'est une maison de retraite. Et donc, elle est forcément obligée d'avoir une stratégie de maison de retraite. Et vous savez,
Mais pour payer la retraite, pour payer, oui, non, mais c'est intéressant, pour payer la retraite des Français, il faut quand même qu'il y ait des gens qui bossent, non?
Oui, c'est pour ça qu'il faut investir dans les endroits où il y a des jeunes. Et donc, je reviens, puis je veux pas être obsessionnel sur le
non,
Kenya,
non,
mais
non, pas du
les jeunes, ils sont en Afrique maintenant. Et donc, le véritable enjeu, c'est d'avoir des capitaux, de l'épargne, qu'on puisse investir dans les endroits où il y a de la jeunesse susceptible de travailler. Et donc,
comment va l'Europe?
Et donc l'Europe qui dégage des excédents extérieurs est en train de préparer son avenir en plaçant cette épargne qu'elle dégage à l'extérieur.
Elle se nipponise.
Exactement.
Mais pas toute l'Europe, parce que
excusez-moi, il y a un mouton noir dans cette affaire.
Il y en a combien de moutons noirs dans cette affaire?
Non, il y a deux pays parmi les grands pays de l'Union européenne qui dégagent des excédents extérieurs, donc de l'épargne, et qui placent cette épargne à l'étranger.
L'Allemagne
et l'Italie. Okay. Et puis il y a un pays qui est en déficit de sa balance des paiements courants, donc qui vit au crochet des autres, qui est la France, avec ce que ça représente comme danger économique et comme danger politique aussi, parce qu'il y a un certain nombre de gens autour qui commencent à dire, il y en a marre, comme on vient de dire, on fait de la dette et on fait du déficit extérieur pour payer de la consommation et donc pour porter atteinte à l'avenir de l'Europe qui va avoir besoin d'avoir de l'épargne pour aller investir à l'étranger.
Mais vous dites, pas de panique, arrêtez l'Europe bashing. En fait, c'est super, on va arrêter de bosser, on va avoir de l'épargne et on va investir. Alors que vous, vous êtes toujours en train de nous répéter que tout va mal parce qu'on travaille pas assez.
Ah mais on travaille pas
c'est
assez.
C'est pas cohérent votre truc.
Si on travaille pas assez, parce que si on travaillait plus, on aurait davantage d'épargne à dégager. Mais maître mot, c'est...
Mais dans un EHPAD, on travaille pas.
Mais oui, sauf qu'on est en préparation, on est dans une maison de retraite, on n'est pas encore au stade. On n'est pas encore dans l'unité de soins palliatifs.
Mais dans une maison de retraite, on ne travaille pas non plus.
Oui, en fait, c'est une maison de retraite en devenir.
D'accord.
C'est
de retraité actif.
De retraité actif. Mais on va progressivement vers l'EHPAD, puis vers l'unité de soins palliatifs. Et donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut qu'on ait placé de l'argent pour faire face à ça. Moi, j'en suis resté au 19e siècle, pas 1293. Louis-Philippe.
92.
Enrichissez-vous par le travail et par l'épargne. Je pense que les véritables enjeux, c'est ça. Et dans ce schéma-là, l'Europe n'est pas si mal partie. En revanche, la France est mal partie parce qu'elle épargne pas et elle ne travaille pas.
Alors, quand même, par rapport à ça, c'est fou. Hein. Quand vous regardez le taux d'épargne des ménages, on est à 17%. Hein. 18, on a les taux au 18, l'un des plus hauts taux. Hein. Les États-Unis, c'est 4%. Il y en a 3 000 milliards de...
L'épargne d'un pays se mesure par son déficit de sa balance des paiements.
Non, mais quand vous regardez en revenu disponible, donc vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'épargne, que les Français n'épargnent pas.
Il n'y a pas assez d'épargne par rapport...
Et l'autre
on n'a pas d'excédent de la balance des paiements courants.
L'autre élément par rapport à ça, juste sur l'épargne, c'est très bien d'avoir de l'épargne, mais ça dépend aussi comment on l'investit. Et aujourd'hui, en France, on n'investit que dans l'immobilier, de la dette ou de l'assurance vie. Donc absolument pas les entreprises. Donc on peut avoir beaucoup d'épargne à attendre, mais ça ne produit rien.
Non, juste pour compléter ça, encore une fois, on prétend qu'il y a beaucoup d'épargne en France, il n'y a pas beaucoup d'épargne. Vous prenez les années Pompidou dont on parlait, le taux équivalent sur les ménages était de 24% et le déficit budgétaire était nul. Vous imaginez
18%, c'est pas mal quand même.
Comment
18%.
Mais le véritable problème, c'est l'épargne du pays.
Oui,
et un pays qui est en déficit de sa balance des paiements courants est un pays qui manque d'épargne. Et ensuite, l'utilisation d'épargne, je suis d'accord, il faut utiliser au mieux l'épargne, et la bonne utilisation de l'épargne compte tenu de notre démographie, c'est d'acheter des entreprises à l'étranger. Quand on parlait, je suis dans des entreprises européennes, tout ça, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise européenne? Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise américaine? Quand M. Pouyanné dit, je vais faire coter Total à New York, parce que je suis plus une entreprise américaine qu'une entreprise européenne, il remet quand même dans le débat le fait de savoir quelle est la nationalité d'une entreprise. Donc, en revanche, la nationalité de votre épargne, elle est clairement identifiée.
Donc votre conseil de placement, parce que vous êtes passé directement à la deuxième partie de l'émission, c'est d'investir au Kenya, au Nigeria et en Angola.
Oui.
Alors, je voudrais juste votre avis, Jean-Marc, et peut-être si on a le temps, Anne-Sophie, sur le chiffre de la semaine, très rapidement, 365, l'Europe se déchaîne, heureusement, après les taxes sur les voitures chinoises, voilà qu'on s'attaque enfin à la tech américaine. Cette fois, c'est Microsoft, l'intégration de Teams dans Office 365. Je suis très content, et vous dites, non, il ne faut pas faire ça.
Non.
Pourquoi ?
Le protectionnisme, c'est toujours...
C'est pas du protectionnisme, c'est de la protection.
Oh, oui,
ça n'a rien à voir. Non, mais ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir.
Oui.
Je suis agressé, je me protège. C'est de la self-defense, c'est pas du protectionnisme.
Et on est pour la concurrence loyale, hélas, nos concurrents sont toujours des loyaux.
Bah oui.
Mais c'est par nature qu'ils sont comme ça.
C'est pas vrai. Donc vous pouvez pas dire que les géants de la tech sont des concurrents loyaux.
L'excédent de l'Europe par rapport aux États-Unis ?
Non.
150 milliards de dollars d'excédent de l'Europe par rapport aux États-Unis. Et puis, avec ce genre de mesures, encore une fois, je le rappelle régulièrement, on va pouvoir boire du cognac. Parce que tous les gens qui exportent du cognac
sont confrontés. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous raisonnez par rapport à vos copains, mais bon, ok. Moi, j'aime beaucoup les producteurs de cognac, mais je dirais que l'avenir de la France.
Vous allez pouvoir en boire, il va y en avoir. Tout le cognac,
Anne-Sophie. C'est assez étonnant cette réaction, parce qu'on voit pour les voitures électriques.
Vous êtes d'accord.
La Chine ne respecte pas les règles.
Bah oui.
Et c'est un de nos premiers clients, donc il pourrait dire, oulala, on respecte respecte pas les règles, l'Europe va faire des mesures de rétorsion, vu que c'est un de nos principaux clients. Rien du tout, alors qu'il y a quand même des impacts énormes sur le marché de l'automobile. Avant, c'était l'acier et l'aluminium qui avaient été menacés. Donc là, j'ai rien contre les producteurs de cognac, mais l'industrie automobile en termes de valeur ajoutée et d'emploi et le cognac, c'est quand même pas la même chose. Et eux, de leur côté, ils ont pas de problème à dire, alors qu'on est client, on va pas respecter les règles.
Self-defense.
À un moment. Et l'autre élément pour la tech, comme pour les voitures électriques, c'est pas une question du produit manufacturier, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est toutes les données. Ça vous permet d'avoir accès absolument en temps réel sur tout ce que font les gens en termes d'habitudes et autres. Aujourd'hui, avec tous les conflits qu'il y a, c'est ça le nerf de la guerre. Donc, c'est pas juste on fait des mesures protectionnistes. Si tu n'achètes pas mon cognac, j'ai pas de vente, ça n'a rien
alors,
à voir.
Jean-Marc
c'est
Daniel.
Avoir les données, avoir la tech pour pouvoir maîtriser le monde quand il y aura des conflits géopolitiques. C'est juste ça le sujet.
Et pour avoir les données, il faut être propriétaire des entreprises. Parce que quand vous regardez l'IRA, quel est le premier bénéficiaire de l'IRA? C'est nous. Quand vous regardez
les Européens.
Les propriétaires des entreprises qui ont le plus bénéficié de l'IRA sont des fonds de placement européens. C'est vous qui êtes propriétaire.
Oui, mais c'est aussi beaucoup d'entreprises qui vont aller aux États-Unis.
Je trouve ça très passionnant. Pour une fois, vous dites des trucs intéressants. Allez, on se retrouve en deuxième partie de l'émission. On va parler de la bulle de l'intelligence. Bien sûr. La bulle de l'intelligence artificielle, la bourse américaine, sky is the limit. Quel placement privilégié cette semaine? Le top ou le flop de la semaine? Le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre?
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Impossible de les tenir, Jean-Marc Daniel, il n'y a pas d'inflation et il faut faire attention aux exportations de cognac. Marisol Michel, qui gère sous mandat pour une banque suisse installée à Paris et qui aura beaucoup de travail dans les semaines qui viennent. Louis de Montalembert, qui est dans les nuages.
Non,
les nuages.
Magnifique.
Mais oui, vous dites non.
Mais oui, j'ai pas votre esprit.
Sophie Alsif, moi j'aime bien vous faire venir parce que vous avez la pêche. Je suis pas d'accord avec vous, mais j'aime bien parce qu'il y a de la réponse et on peut s'accrocher. Et en plus, vous couez le bec à Jean-Marc Daniel qui nous parle de cognac. Franchement, vous êtes d'accord que
Je dis juste qu'à un moment, on aime beaucoup le cognac, mais par rapport à l'industrie automobile, l'acier, l'aluminium, en termes d'emploi, etc.
Le cognac, vous avez compris, nous, on aime beaucoup le cognac, mais ça ne peut pas driver notre politique économique.
Le cognac, c'est tout aussi noble que les Clio et autres DS. Hein.
Allez, on parle tout de suite des marchés. Bon, on peut parler des marchés européens, mais j'avais envie de parler des marchés américains. Parce que quelque part, si on tient relativement bien par rapport à un environnement européen qui est quand même assez chaud en ce moment, c'est aussi parce que les États-Unis restent à des niveaux records. Et on a eu un tout petit coup de mou, alors pas de quoi s'exciter, hein, notamment sur Nvidia. Je rappelle quand même que ces trois boîtes de la cote, c'est-à-dire Nvidia, Microsoft et Apple, tirent une partie de la hausse du S&P 500, une partie. Et que globalement, en quelques jours, c'est quand même assez incroyable, les chiffres sont fous. Nvidia, il y a 450 milliards qui sont évaporés en trois jours. 450 milliards, c'est-à-dire 450 milliards, c'est une partie importante du CAC 40. Ma question pour vous, qu'il y avait une intelligence humaine, est-ce qu'il y a une bulle de l'intelligence artificielle?
Ma réponse est oui. Il y a une bulle de l'intelligence artificielle pour la simple raison que effectivement les performances sont concentrées sur quelques valeurs. Et ce qu'on oublie, c'est que finalement aujourd'hui l'intelligence artificielle est dans son instant des vendeurs de pelles, ce que j'appelle l'instant hardware. Et donc on regarde les multiples de Nvidia. Essentiellement.
Okay.
Essentiellement. On regarde les multiples de Nvidia en disant ils sont pas si riches parce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires. On a tendance à oublier que Nvidia satisfait des plans d'investissement, ce qu'on appelle les capex de ses clients. Elle a 4 clients qui représentent 50% du chiffre d'affaires et que par conséquent, on peut pas extrapoler le chiffre d'affaires à l'infini, même si c'est une entreprise exceptionnelle, parce que ses clients, par définition, font des plans d'investissement qui ont un début, un milieu et une fin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est en train de s'apercevoir que, même si l'intelligence artificielle est la révolution de notre génération et qu'elle est équivalente à la révolution de l'électricité, nécessite pour les entreprises, afin de capter les gains de productivité attendus, des investissements dans l'organisation de leurs données. Donc ça, on est en train de s'apercevoir que ça va être plus compliqué que juste utiliser ChatGPT sur un process.
Ce qui est déjà pas mal.
Voilà.
On va gagner en productivité déjà rien qu'avec ça.
C'est déjà pas mal, mais je vous donne un exemple. C'est Office 360 qui a lancé son Copilot, qui est pour l'instant, pour les utilisateurs, une forme de déception. Ouais. C'est déceptif parce qu'on attend ce qu'on appelle un agent d'intelligence artificielle. C'est-à-dire l'étape suivante de l'IA générative, c'est l'IA générative agentique, c'est-à-dire quelqu'un à qui on donne des ordres et qui peut manipuler les différents applicatifs que l'on utilise. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et je parlais à quelqu'un de Microsoft qui nous disait que, d'abord, les gagnants vont être ceux qui se sont intégrés en aval, c'est-à-dire dans le logiciel. C'est par le logiciel que ça va se diffuser. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut investir dans la formation. Parce qu'en fait, il faut que les travailleurs modifient leur manière de travailler. Si on leur donne juste l'outil d'IA générative, moi ça a été le cas au bureau, hein, on a Copilot, si on n'est pas formé et qu'on ne modifie pas notre approche de travail, à ce moment-là, on ne capte pas les gains de productivité. Et par conséquent, il y a une bulle.
Il y a une bulle. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que... Alors, il y a l'effet baisse de taux d'intérêt. Moi, je suis un peu gêné parce que d'un côté, je me dis un peu comme Louis, il y a une bulle. Et en plus les marchés américains sont au plus haut, donc j'ai envie d'alléger. Et de l'autre côté, je me dis, il y a l'effet baisse de taux qui va jouer. Comment vous balancez tout ça, Marisol?
C'est vrai que le marché américain, il est cher, hein. Il est au-dessus de sa moyenne historique. Il a 21 fois les résultats contre 16 fois en moyenne historique sur 20 ans. Donc il est cher. Mais il y a effectivement cette révolution technologique qu'on est en train de vivre qui conduit à une accélération forte des profits. En fait, le momentum bénéficiaire, donc la progression des bénéfices des valeurs tech, c'est 3 fois celle de la moyenne du SP500. Donc la valorisation et la survalorisation, on peut dire, par rapport à la moyenne, elle est en partie justifiée par cette formidable accélération.
Donc vous, pas bulle.
Liée à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Il y a à court terme un excès de valorisation. Donc à court terme, effectivement, on est un peu en retrait, mais on considère qu'à moyen long terme, le marché américain est toujours extrêmement intéressant.
Oui, très rapidement.
Puisqu'il est au cœur de la révolution technologique de l'intelligence artificielle dont on vient de parler. Donc ce sont les valeurs.
Donc c'est justifié. Il peut y avoir des corrections parce qu'il y a toujours des corrections, mais il n'y a pas une remise en question de la valorisation.
Mais à court terme, on a monté un peu vite et donc notamment sur Nvidia. Hein, nous, on est circonspect sur la valorisation d'Nvidia.
Circonspect.
Qui a pris quand même 150% sur un an et 110% depuis le début de l'année. Elle a donc cru beaucoup plus vite que ses bénéfices. Hein, les bénéfices ont cru de 110%. Elle a fait 150% depuis le début de l'année. Et donc, la valorisation paraît assez élevée à un moment où la croissance des bénéfices va fortement ralentir avec l'arrivée de la concurrence, puisqu'ils sont seuls pour l'instant.
Louis,
mais ils vont être plusieurs dans très peu
Louis.
De temps.
Il y a une bulle sur un tout petit nombre d'entreprises.
Il
faut comprendre que dans la tech, le logiciel, à l'inverse, est en baisse de 15%. Et en fait, si vous classez la performance du S&P 500 en quintiles de taille de capitalisation, les plus grosses performances sont les méga caps. Ensuite, vous avez le deuxième quintile, le troisième quintile, le quatrième quintile. Et le cinquième quintile, les entreprises les plus petites du S&P 500, sont en déclin depuis le début de l'année.
D'accord.
Donc en fait, il faut regarder un peu plus en détail.
Oui.
Juste une petite parenthèse, Jean-Marc Daniel, vous qui avez connu la première révolution, la révolution du feu, quand vous voyez cette révolution de l'intelligence artificielle et l'excitation des financiers autour, vous vous dites quoi? Vous dites, ils ont raison.
Je me dis d'abord, effectivement, il y a une phase de rente d'innovation, celui après, quand la concurrence intervient à ce moment-là, parce que c'est la courbe en U renversée de Kuznets. Après, il y a alors un grand économiste qui s'appelle Daron Acemoglu, qui est l'économiste de référence, je parle devant ma jeune collègue, qui est l'économiste de référence en ce moment, et donc il n'arrête pas de dire que c'est un leurre, l'intelligence artificielle, que les gains de productivité vont être ridicules, comme on l'a dit, il faudra former des gens, que en fait ça va prendre beaucoup de temps pour les former, que ça va coûter très cher parce que ça consomme énormément d'électricité, on revient de ça, et donc il dit, c'est une illusion, c'est une invention et pas une innovation.
Le dit Jean-Marc Daniel.
Et Jean-Marc Daniel dit... pour faire le bilan de tout ce que j'ai raconté jusqu'à présent, il faut installer l'intelligence artificielle à Abidjan et à Lagos, puisque c'est là que va se construire l'avenir. C'est-à-dire, c'est là qu'il y a les jeunes qui vont comprendre très vite, qui vont être bien formés, et c'est là qu'on va pouvoir faire des gains de productivité.
Un petit mot.
Justement, c'est en effet ce que dit Acemoglu, mais ce qui est assez intéressant, c'est toujours une fois, il faut toujours regarder ce qui s'est passé dans l'histoire.
Oui.
On a eu plein de ruptures et de révolutions.
Oui.
Et là, ce que l'on voit dans l'intelligence artificielle actuellement, en effet, il va sûrement avoir des gains de productivité assez minimes. et même par exemple minime. On a vu minime pour l'intelligence artificielle actuelle, hein, dans sa forme actuelle, pas dans celle qu'on aura après, où là en effet ce sera sûrement beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, il faut former, etc. Et que très souvent, quand on regarde les ruptures qu'on a eues technologiques avant, eh bien ces gains, ça se traduit en fait par une augmentation du temps libre et donc une augmentation du travail. C'est-à-dire que par exemple, vous avez une traduction à faire, ça vous prend énormément de temps, avec ça, ça prend 2 minutes. Eh bien c'est pas pour ça que vous allez faire absolument une tâche plus productive ou à plus forte valeur ajoutée si vous n'avez pas été formé ou si votre emploi n'évolue pas en fonction de la technologie.
Donc ça n'a pas d'impact sur la productivité?
Exactement. Et donc c'est souvent plus de loisirs hautes et donc des conditions de travail qui peuvent être améliorées. Hein. Donc c'est pas que les gains de productivité, mais c'est vrai qu'en termes de gains de productivité, historiquement, on est assez déçus. Et dans l'évaluation sur sa forme actuelle, on l'a dit, hein, s'il n'y a pas de la formation et le changement des postes qui s'adaptent, parce qu'en fait, l'idée c'est que vous allez économiser du temps pour faire des tâches à plus faible valeur ajoutée. Donc en fait, ce temps, il faudrait le garder pour faire des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et ce qui se passe, je vous dis, c'est qu'en général, c'est ou du temps libre en plus, ou c'est d'autres tâches qui sont à même niveau de gain de productivité. Donc c'est pour ça qu'il y a ces gains qui sont moins importants. Mais c'est dans la forme actuelle, hein, la forme future, là, on ne sait pas.
Et il y aura sûrement plus. On va parler tout de suite, justement, du placement de la semaine. Je vous rappelle qu'on ne parle pas d'actualité. Justement, dans le contexte, Louis de Montalembert, c'est quoi votre conseil? Parce que vous dites vous-même, bon, attention, peut-être prudence, hein, vous ne dites pas qu'il y a une survalorisation, mais vous dites qu'il y a peut-être eu un peu d'exagération. Est-ce que ça veut dire qu'on se met en position d'attente?
Non, c'est intéressant parce que justement, si on regarde les indices dans leur globalité, on dit c'est cher, etc. Mais en réalité, ce que j'ai essayé d'initier tout à l'heure, c'est l'idée que, en fait, il y a une division dans le marché entre des gens qui ont trop performé boursièrement et d'autres pas du tout. Et malgré tout, le contexte politique en France a pu faire émerger des opportunités, puisqu'on a vu des small caps françaises. Enfin, moi, je regarde par exemple une entreprise comme Exel Technologies a baissé 35% depuis la dissolution en droite ligne, alors que c'est une entreprise qui sert essentiellement à l'international. Donc, il y a des opportunités de marché qui émergent grâce à des chocs avec le gel. Et ensuite, je regarde évidemment les États-Unis. Les États-Unis restent une zone extrêmement intéressante et je ne la regarde pas dans la globalité. Je pense qu'il y a un endroit où il y a une bulle où je n'ai pas envie d'être. Mais en face de cette bulle, il y a au contraire des entreprises, et moi je parle du logiciel parce que c'est mon monde, mais il y a eu cette espèce de phénomène au début d'année où le logiciel a été complètement mis de côté dans les allocations technologiques au profit du semi-conducteur. Donc ça fait émerger des opportunités. Et donc évidemment, moi, la tech toujours, mais avec discernement sur quel type de tech dans lequel il faut investir aujourd'hui. Donc moi, le cap en Europe, je trouve qu'il y a des trucs intéressants. Et la tech aux États-Unis, mais plutôt logiciel.
De façon sélective. Marisol, je comprends ce que dit Louis, mais vous comprenez que quelqu'un aujourd'hui peut se dire... Il y a un climat d'incertitude générale, je me mets en position d'attente, et en plus, la position d'attente, elle me rapporte de l'argent, parce que je peux avoir du 5% quasiment sans risque, avec des marchés obligataires. Les gens dont vous gérez l'argent avec votre gestion sous mandat, ils vous disent pas ça ?
Là, il y a pas mal d'incertitudes sur l'évolution du marché français, évidemment.
Oui, je veux dire globalement.
Même l'évolution du marché européen qui est touché par ce qui se passe en France. Donc, faire un peu de cash depuis l'annonce de la dissolution, ça a été un peu notre politique. Mais surtout, on s'est repositionné vers les États-Unis et vers des segments, justement, qui nous paraissaient encore attractifs en termes de valorisation. Et là, je rejoins Louis. Effectivement, il y a des segments, notamment le software, les logiciels, qui n'ont pas vraiment bénéficié de cet engouement extraordinaire lié à l'intelligence artificielle qu'on a eu sur les semi-conducteurs. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a certains semis comme Nvidia qui sont beaucoup trop chers. Par contre, dans le secteur des logiciels, il y a vraiment encore des belles opportunités. Et il y a eu
Il faut rappeler quand même, il y a un truc que vous ne dites pas, c'est que le secteur des logiciels, il a quand même explosé en ligne droite pendant plusieurs années, hein.
Il est revenu en arrière, on en parlera tout à l'heure, parce que dans ma liste, je vais mettre une valeur de logiciel US, justement. Donc, on se repositionne vers les États-Unis. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident en termes de timing, parce que les États-Unis ont beaucoup monté, mais à moyen-long terme, on s'y retrouve. Le momentum bénéficiaire des valeurs américaines est nettement supérieur à celui des européennes, malheureusement, hein, je dirais. Donc, pour cette année, par exemple, on s'attend à 10% de croissance de bénéfices, quand en Europe, ça va être péniblement 4%. Et l'année prochaine, on s'attend globalement pour le SP500 3% à 14% de croissance de bénéfices aux US, alors que ça sera que 10% en France. Donc, bien sûr, cet engouement pour la tech et cette réalité de la croissance des bénéfices liée à la technologie bénéficie aux US, parce que c'est là que la révolution technologique se passe. Donc, intérêt pour les US.
Pour des gens comme nous qui sommes dans la maison de retraite européenne, de voir tout l'argent partir aux États-Unis.
Non, pas du tout. C'est bien. Les propriétaires de ces usines, c'est bon. Le problème, c'est qu'on n'est pas propriétaire. Quand vous êtes dans votre maison de retraite, vous êtes là en train de regarder, c'est votre argent, et vous voyez vos valeurs qui montent, parce que vous êtes propriétaire de
Donc vous dites, usines. On s'en fout, à la limite, ils bossent pour nous, tant mieux qu'ils continuent à pédaler.
Mais absolument, qu'ils continuent à travailler, qu'ils soient efficaces et tout ça, et qu'ils nous donnent des dividendes.
Et puis, si je peux ajouter quelque chose, il n'y a pas de dichotomie entre l'Europe d'un côté et les US. Il ne faut pas oublier que beaucoup de valeurs européennes sont très exposées aux US et se réallouent également vers les US. On peut penser à Saint-Gobain, on peut penser à CRH, une valeur irlandaise de matériaux de construction qui a décidé de se coter maintenant principalement à New York. Il y a vraiment un mélange chez les grosses sociétés. Donc la croissance européenne, c'est vrai, est faible, mais les sociétés européennes bénéficient également de la croissance que l'on a aux États-Unis ou en Asie.
J'insiste là-dessus, on ne sait pas quelle est la nationalité d'une entreprise.
Ouais, c'est vrai,
en revanche,
c'est très mélangé.
On connaît la nationalité de l'épargne. Ouais. Et les vieux, c'est eux qui ont l'épargne. C'est nous. La maison de retraite.
C'est eux qui détiennent les cordons de la banque.
Anne-Sophie,
c'est une bonne conclusion.
Anne-Sophie, vous qui êtes une enfant, quel est le top ou le flop de la semaine?
Alors moi, c'était plutôt le top sur Thierry Breton. Je trouvais que c'était...
Interdit de rigoler.
Positif,
vous vouliez parler d'Atos et de Thompson pour Thierry Breton?
Non, pardon. Le fait qu'il soit toujours commissaire... commissaire européen, parce que je pense qu'il a fait un immense travail justement sur la tech, sur les données, sur la protection et sur les questions sur toute souveraineté, que ce soit sur la tech ou que ce soit sur le spatial. Et il faut quand même le redire, on a eu peu de commissaires de cette rampe qui ont fait ce travail. Pour le reste, je ne parlerai pas, puisqu'en effet, on lui dit qu'il a quand même eu de bons résultats, donc après, chacun juge.
Moi, j'ai
chacun
dit jamais 203, on a eu Thompson, Atos et maintenant l'Europe.
Sur l'aspect européen, je pense qu'il faut déjà l'évaluer sur ce qu'il a fait, que je trouve positif.
Moi, c'est ce que je
fais
d'ailleurs.
Sur l'Europe, mais bon, sur l'Europe, et puis ce qu'il annonce de faire justement sur les questions de souveraineté, pour moi c'est un des commissaires qui a vraiment compris ce qu'il faut faire.
Bon, très bien, c'est courageux. Louis de Montalembert,
moi c'est un flop. C'est un immeuble de 10 étages dans le centre de Chicago, le plus prestigieux, qui avait été acheté pour 23 millions de dollars en 2014, qui vient d'être vendu pour 2,3 millions de dollars. De la même manière, Blackstone vient de vendre pour 185 millions de dollars un immeuble dans le centre de New York qu'il avait acheté pour 605 millions de dollars il y a une dizaine d'années, sachant que la dette qui était associée a été remboursée qu'à 75% alors qu'elle était notée AAA. Tout ça pour dire que on a quand même un problème de l'immobilier commercial aux États-Unis qu'on a tendance à oublier. Je suis relativement optimiste sur les marchés, mais il y a un risque qui est gigantesque, qui est l'immobilier commercial, qui représente 2100 milliards de dollars de créances dans les banques régionales américaines, et je pense que le système financier américain est en danger tant que les taux restent élevés.
Marisol, votre top ou votre flop?
Alors moi, c'est un flop. C'est le warning d'Airbus que l'on a eu cette semaine. Donc l'avertissement sur la cadence de livraison des avions chez Airbus qui a été révisé en baisse de 4%. Donc on fera pas les 800 livraisons d'avions attendues, on fera que 770. Et ça se traduit bien sûr par un avertissement également sur les résultats, puisque les résultats vont baisser de 18% par rapport aux premières prévisions pour 2024. Donc ils seront toujours en forte croissance, mais ils seront révisés en baisse de 18%, et le cash flow en révisé en baisse de 19%. Bon, donc on peut se demander,
ça reste quand même une belle boîte.
Voilà, ça reste une superbe boîte. On peut se demander pourquoi ils ont fait ce warning quand on connaît la forte croissance qu'il y a dans le secteur aérien, avec le besoin également de renouvellement de la flotte. Et en fait, c'est un problème de production, de chaîne de production qui ont du mal à suivre la cadence. Donc c'est un problème, je dirais, de riches. Ils n'arrivent pas à suivre la cadence, et notamment les sous-traitants qui travaillent pour Airbus, ils n'arrivent pas à monter en cadence et à produire suffisamment. Donc ça a été, je trouve, très sanctionné, exagérément sanctionné. Le titre a perdu 13% en raison également d'une provision qu'il y a eu sur le spatial. Donc le spatial ne va pas bien. D'accord. Par contre, l'aéronautique...
Non, mais c'est très court, normalement.
L'aéronautique va très bien, et donc c'est une occasion d'achat pour moi, puisque ça vaut plus que 17 fois les résultats pour un taux de croissance à moyen terme de 20% par an.
Jean-Marc Daniel, alors, le top ou le flop?
C'est un top et...
La chocolatine.
Ça aurait pu être la chocolatine, mais vous m'aviez dit, vous avez indiqué qu'il fallait s'éloigner des élections, donc j'ai choisi Jean-Jacques Rousseau. Okay. Je pense que ça nous éloigne assez des élections. Pourquoi Jean-Jacques Rousseau?
Parce que le 28... À ne pas confondre avec Sandrine.
Ah ben, justement, rien à voir avec Sandrine. Jean-Jacques Rousseau est né un 28 juin, le 28 juin 1712, donc nous connaissons en ce moment son anniversaire. Cette semaine, c'est son anniversaire. Et je rappelle qu'il a été l'auteur de l'article Économie de l'encyclopédie, ce qui fait qu'il est considéré par certains spécialistes comme le premier économiste de l'histoire. Alors cet article est édité sous le nom de Discours de l'économie politique, sur l'économie politique. Et dans cet article, on trouve cette formule célèbre où Jean-Jacques Rousseau rappelle que impôt et imposteur, c'est le même mot. Que l'imposteur, au départ, c'est celui qui imagine les impôts et que assez vite, dans le sens commun populaire, ça devient un menteur. Et donc, Jean-Jacques Rousseau rappelle que l'imposteur, l'État, c'est des menteurs. Il le met dans son discours. Il le rappelle aussi dans la lettre à d'Alembert. C'est une de ces formules qui revient également dans les confessions. Donc, j'invite tous les éditeurs et téléspectateurs à lire ces textes et à adhérer à cet adage « impôt et imposteur, c'est le même mot ».
Allez, on passe tout de suite au top 3 avec un retour surprise à la tête de classement de Virginie Robert qui avait disparu, qui a fait la course en tête quand même pendant toute l'année dernière, qui avait un peu disparu en début d'année. La revoilà tout en haut. Frédéric Rosier qui était premier reste deuxième à 7,1%, Pascal Sévy 6,8%, et je voudrais moi une musique qui fait peur. Marisol Michel, la France vous regarde, je vais vous donner votre portefeuille. Oui. Et vous allez devoir me dire si vous gardez ou pas et ce que vous allez acheter. Vous avez du Eiffage.
Alors, Eiffage, dans ce contexte politique tendu, je vais la sortir.
Okay.
Parce qu'elle concentre vraiment trop de risques politiques. C'est une valeur très domestique risque donc de se voir ponctionner sur.
On fait plus court. On essaye de faire plus court, voilà, parce qu'il y a pas mal de
lignes. Je la sors.
Capgemini.
Je garde.
STM.
Je garde aussi.
CRH.
La valeur irlandaise dont je parlais tout à l'heure, je garde.
Pernod Ricard, une valeur chère à Jean-Marc Daniel.
Oui, je garde.
C'est pas du cognac.
Non, mais
une belle perspective.
Ça reste quand même ça reste dans un domaine de compétences dans lequel vous excellez.
Oui.
Belle perspective à moyen terme, je garde.
Microsoft.
Je garde bien sûr, c'est un de nos plus grosses positions sur les États-Unis.
BNP.
Je garde aussi.
AstraZeneca.
Je garde.
LVMH.
Je garde.
Thales.
Je garde, ça, on l'avait rentré la dernière fois, oui. Ça a très bien fonctionné.
Ouais, 12,6% depuis que vous l'avez rentré. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on achète là?
Alors, qu'est-ce qu'on achète justement, donc, conformément à ce que je disais tout à l'heure? On achète une valeur de logiciel US qui est attractive en valorisation, d'après nous. C'est Salesforce, donc c'est le numéro un mondial de la gestion.
Louis fait oui de la tête.
De la relation client. Ils ont toute une série de produits, donc principalement pour la gestion de la relation client, mais ils ont élargi leur offre à de multiples produits pour aider les entreprises déjà à faire leur migration sur le cloud. Pour commencer, et ensuite à essayer d'utiliser donc dans leur solution l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment le partenaire clé pour faire ces migrations à la fois cloud et intelligence artificielle pour les entreprises. Donc c'est une société qui a cru très vite, de l'ordre de 20% par an au cours des dernières années. Elle a eu un petit recul de croissance au T1, donc au premier trimestre 2024, parce que l'année d'avant avait été très très forte, et il y a un certain ralentissement dans le secteur des logiciels, comme l'a dit Louis
depuis quelques mois. Si vous suivez Louis, il va avoir un melon.
Et du coup, elle a pas mal baissé, parce que les marchés exagèrent souvent leurs sanctions quand il y a une petite déception. Elle a perdu 13%, donc au moment de cette publication, et elle est attractive pour nous.
Très bien,
avec une valorisation qui laisse pas mal de potentiel.
Allez, vous me remettez cette musique là, effrayante, parce que là on va parler quand même de Louis de Montalembert. Vous avez du Snowflake.
Je garde.
Bill.com.
Je garde.
Du Monday.
Je garde.
Du Elastic.
Je garde.
Faut pas trop tirer dessus quand même, si. Non, elle est nulle. Ok, je suis d'accord.
Facile en tout cas.
Elle est facile et nulle.
Pas forcément, mais facile.
Non, mais nulle. Moi, je suis d'accord. MongoDB.
On garde.
GitLab.
On garde.
Procore.
On garde.
Qu'est-ce qu'on achète?
Alors, on achète aussi une valeur du logiciel américain qui s'appelle Braze. Qui est une entreprise à forte croissance puisqu'elle va croître à peu près de 27% cette année, 27 à 30%, 600 millions de chiffre d'affaires. Elle arrive à l'équipe cette année. C'est du marketing et de plus en plus de la gestion de données clientèle qui permet de mieux targeter les clients pour tout le business B2C. Donc c'est une entreprise extrêmement performante avec aujourd'hui une trésorerie nette pléthorique, à peu près 500 millions.
Qui a ça, pas c'est mal des valeurs qui ont souffert ou pas?
Pardon ?
C'est des valeurs qui ont souffert.
C'est une valeur qui a souffert, qui est à moins 25% depuis le début de l'année.
Mais pourquoi ? Comment vous expliquez ?
Pour toutes les raisons que j'ai données sur un effet d'éviction dans la location tech, hein, qu'on a vu aussi sur Salesforce, un effet d'éviction sur les valeurs tech au profit dans la location tech d'abord de...
Donc quand vous dites éviction, c'est arbitrage, c'est-à-dire des gens qui sortent de certaines valeurs.
Voilà, c'est des flux financiers, mais aussi effectivement une pression mise par les CEO auprès de leur CTO de faire
Les CEO, CTO, vous avez perdu la moitié des gens.
Les patrons de boîtes ont de plus en plus demandé, en voyant l'IA générative arriver, faites-moi des projets d'IA générative sans augmenter les budgets. Donc ça a été en repoussant peut-être les autres priorités, même en cybersécurité, on l'a vu. Et donc ça a été un peu plus compliqué avec des ventes un peu moins dynamiques que ce qu'on attendait, mais je vous parle quand même de 27 à 30% de croissance cette année. C'est quand même pas mal pour une boîte qui fait 600 millions de chiffre d'affaires et qui est à l'équilibre et qui a un potentiel de marge de l'ordre de 25%.
Jean-Marc, le mot de la fin, sans impôts, comment on finance nos dépenses sociales ?
Mais il suffit de baisser les finances sociales et de privatiser la sécu.
Super. Allez, ça c'est un bon programme pour les prochaines, pas celle-là puisqu'on n'a pas le droit d'en parler, mais on peut parler quand même de celle de 2027. Allez, merci à tous nos invités de marque, merci de nous avoir suivis. Alors, on va se retrouver pour une série d'émissions à partir de maintenant qui sont des émissions non pas exceptionnelles mais très spéciales. On va parler de la bourse et des particuliers, on va vous expliquer comment choisir les pépites de la cote, on va parler de battle entre le private equity et la bourse, entre le bitcoin et l'or, enfin vous allez voir des trucs passionnant. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous réécouter, nous revoir en podcast et en replay sur la plateforme BFM et sur toutes les plateformes. À bientôt.